production podcast.
Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, votre podcast Magic, le plus québécois possible, hein? On est capable de dire tabarnak. Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette encore une fois. Jason, ça va?
Bien le bonjour.
Bien l'air de bien aller, mon cher François Lontour.
Hey, salut les magiciens.
Et voilà, il est capable et on est accompagné par une saveur classique, Olivier Bourbonnais.
All of them witches.
Ben oui.
Classique.
Et un petit nouveau, hein, je pense que c'est ta première fois. C'est Tommy Colin Vallée.
Fraîchement tapé.
Et alias Dr. Calin.
Bonjour, content d'être ici.
Ben oui, un collaborateur fréquent à 70%. Toi, tu joues à Magic depuis une tranche, là.
Ouais, ben, depuis Fallen Empire, facile.
Oh, Chris, hein, ça fait une tranche. Et un dernier invité ce soir, et c'est surtout avec lui qu'on va parler, c'est Camille, je connais pas ton nom de famille.
Camille Lawful.
Lawful!
C'est évidemment un nom d'artiste.
Ah, bah ok, ça va bien. Fait que c'est comme un ami Lawful? Ou...
Ben oui.
Ah, j'aime ça.
J'aime ça que tu me considères comme un ami.
Oh, c'est cute. Jake, je l'ai même de tatouer.
Ah.
On pourrait le dire, hein, t'es un des copropriétaires de l'Abyss.
Oui.
Et t'es venu à Terrain Basique, j'ai failli dire 70%, pour parler d'une nouvelle collaboration entre votre très charmant magasin de cartes.
Oui, en effet, on est bien heureux de collaborer avec Terrain Basique à partir de cette semaine environ, là, officiellement.
Hey, c'est magique. Si on le vit, on va rajouter des logos partout. J'ai un commanditaire.
C'est vrai.
Hey, François, chatouille-le.
Tiens.
Ah!
C'est en train de se faire. Hey, toi, ça fait combien d'années que tu travailles pour l'Abyss?
Ça va bientôt faire 2 ans.
OK.
Que je travaille avec l'Abyss, puis que j'ai rencontré G, on s'est mis à travailler ensemble, ça va bien. On continue de plus en plus à grandir la business, puis c'est bien le fun. Plusieurs côtés à l'Abyss, là. Côté Magic, évidemment, on est ici pour parler de ça aujourd'hui, mais il y a le côté miniature, board game. En fait, on est un jeu de hobby traditionnel dont la mission de promouvoir tout ce qui n'est pas jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, on aime ça, les jeux vidéo, on joue tout, là.
Oui.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de places qui font du jeu vidéo. Le jeu vidéo a beaucoup de pushing de ce temps-là dans les médias, etc. Donc, le jeu traditionnel, on voulait que ça soit au premier plan aussi pour notre magasin. Fait qu'on n'a pas de jeux vidéo, on a juste des jeux traditionnels.
OK, OK.
C'est un peu ça l'Abyss.
C'est un pari quand même un petit peu risqué, comme tu dis, dans le temps, tu sais, je veux dire, dans ces jours-ci. À part Magic, y a-tu comme d'autres vaches à lait qui vous aident à vivre de ça?
Mais en fait, on a beaucoup de Games Workshop, donc Warhammer, Age of Sigmar.
Ça, c'est les grosses tables qu'il y avait au bout.
Oui, ça, c'est les tables
ça
de Wargame.
Ça a l'air hot, hein, ça prestige.
Ben, écoute, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui mettent vraiment leur âme là-dedans. Là. Il y a de la peinture. Écoute, moi, je fais beaucoup de peinture aussi de ce côté-là. Donc, c'est d'assembler les miniatures, assembler les modèles, peinturer. C'est très artistique. On a des concours de peinture, des tournois de jeux aussi en même temps. Fait que oui, il y a des gens qui passent extrêmement beaucoup de temps, des gens super talentueux là, qui font des affaires magnifiques. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant quand tu regardes ça de l'extérieur.
C'est comme, mettons, pour peut-être un joueur de Magic, c'est que tout le monde ajoute la même figurine qui arrive comme gris-brun.
Mm-hmm.
Puis là, ben, après ça, il y a des concours de monde qui la décorent à leur manière. C'est-tu dans les règles de pouvoir rajouter des morceaux après ces affaires-là?
Oui, tout à fait. Moi, je suis un peintre aussi, mais pas un joueur de ces jeux-là. Puis je confirme que tu peux modifier, tu peux complètement...
Ça ne change pas les stats de la carte.
En général, non, mais il y a ce qu'ils appellent dans le milieu la règle WYSIWYG, là, what you see is what you get.
Oh.
Il y a des jeux qui demandent ça.
Okay.
Si ton bonhomme il a plus telle épée, ben il n'a pas le pouvoir de telle épée.
Ah, OK. Mettons, ta figurine en la déplaçant, tu as perdu l'épée. Fait que là,
ben, ça pourrait être... Non, mais ça pourrait... Mettons, t'as un gros monstre, puis il y a plusieurs setups pour le faire.
OK.
Mais toi, tu décides de faire une autre route, puis de rajouter comme... mettons, de changer le bras pour un tentacule ou quelque chose. Faudrait peut-être que tu changes les règles aussi. Ou tu peux tout simplement dire au début de la game, ben, tu sais, j'ai mis ça en place parce que je trouve ça plus beau, mais en fait, c'est ça les stats.
OK.
Ouais, ça dépend vraiment de avec qui tu joues. Ça, c'est plus une question de dans quel genre de tournoi. Il y a des gens qui sont très, très investis dans le look puis les détails de comment ça... Que ça soit justement WYSIWYG, what you see, what you get. Donc, il faut absolument que tout soit peinturé. Il faut absolument que tout soit équipé avec les bonnes armes puis tout le kit.
Ouais.
Ça, il y a des gens qui sont vraiment investis là-dedans puis c'est super admirable. Mais la plupart du temps, pour ce qui est des tournois, tout le kit, c'est plutôt qu'est-ce qui a de l'air le plus beau va être accepté, va être récompensé. Puis c'est même encouragé de modifier les choses parce qu'évidemment, sinon tout le monde a la même.
Ben oui, c'est ça. C'est
donc,
ça.
Quand on évalue, nous autres, les tournois, ben on donne des points aux gens qui sont forcés à customiser, à vraiment comme changer les choses puis personnaliser tout ça.
Bon, ben en tout cas, ça, j'ai découvert que j'avais un coloc quand on est allé faire le pre-release de War of the Spark. Je me vire de bord et je fais « Ah, Traxxon, qu'est-ce que tu fais là? » C'était mon coloc. J'avais même pas...
Il jouait à War Machine.
Ouais, c'est ça, avec le tape et tout. En tout cas, c'est probablement la fois qu'on va avoir parlé le plus de War Machine à terrain basique. Vous êtes à la bonne place, on va parler Magic. Toi, Camille, est-ce que tu es un joueur de Magic?
Ben oui.
Depuis quand?
Ben, c'est ça, c'est une drôle de question parce que j'ai commencé au secondaire, écoute, avec Mirage probablement.
Ah!
Mais j'ai arrêté pendant plusieurs années, recommencé à arrêter.
Tout le monde a fait une rechute, là. C'est pas bizarre. Tout le monde ici sur la table a arrêté quelques années et a recommencé.
C'est ça, c'est vrai.
C'est un classique.
Et c'est moi qui le regrette le plus.
Start, stop. Puis à chaque fois, c'est pire.
Si je veux étendre le plus possible, je vais dire ah, ben ouais, ça va faire peut-être 20 ans que je joue à Magic, mais c'est pas vrai que j'ai joué pendant 20 ans.
Non, ben voilà, je comprends ça. T'as-tu un set préféré, un style préféré quand tu joues?
J'aime beaucoup Ravnica.
Ah ouais, hein?
Moi aussi.
Tous les sets de Ravnica, le lore de Ravnica, j'aime bien gros. Je suis en train de préparer une game de jeu de rôle de Ravnica.
T'as pogné la piqûre, hein, c'est précis.
J'aime beaucoup ce...
T'as joué dans quoi, le jeu de rôle?
Ça va être dans GURPS.
Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, sapristi. Fait que je pense que t'es quand même geek à ta place, là. Comment tu vis ça, le musée de l'absurde, à date?
Ben, je n'avais déjà entendu parler, je l'avais jamais vu de mes yeux, puis je suis bien content de le voir finalement. Ben c'est une des affaires que tu te dis, ah, faudrait bien que j'aille voir, puis que je suis bien content d'être ici, puis de le voir.
C'est super cool
yeux.
De t'avoir avec
j'ai une
nous.
Une question, moi je suis un gros DM de jeux de rôle aussi, là, puis je pense peut-être me starter éventuellement une game sur Ravnica. Tu vois, le DM, c'est ça?
Oui.
Puis chaque joueur a sa guilde?
Oui, le concept, la structure que j'ai pensé pour ma game pour l'instant, c'est que chaque joueur a sa guilde, parce qu'évidemment, tous les joueurs veulent jouer une guilde différente. C'est un peu comme les classes, quasiment.
Ben oui, c'est exactement ça.
Quand on parle de Ravnica. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est d'avoir une raison pourquoi les joueurs sont plus loyaux à eux-mêmes qu'à leur guilde.
Uh-huh.
Puis là, ben ça, il y a plusieurs solutions. Là. J'ai choisi une espèce de pacte magique qu'il avait fait quand il était jeune, mais ça dépend des joueurs.
C'est cool.
Puis après ça, tu sais, les guilds donnent des missions. Puis là, c'est au groupe de déterminer à quel point ils vont faire la mission, tirer des ressources, mettons, de Dimir quand ils font une mission pour Golgari. Puis dans le fond, que le noyau de la game soit les joueurs. Puis ils sont plus loyaux à eux-mêmes qu'à leur guild. Mais bien sûr, tu sais, progresser dans leur guild, ça va leur donner des avantages, ça va leur donner accès à des contacts.
Ça va être compliqué si t'as un Azorius puis un Rakdos.
Ouais, ben évidemment.
T'as-tu mis des limitations?
Juste un Gruul ou.
Un Gruul.
Un Dimir traditionnel.
Il y a des
Le Dimir, il crosse tout le monde. Puis
C'est ça. Il y a des mix qui marchent moins bien que d'autres. Là, je pense que tu fasses attention quand tu crées les personnages.
Toi,
là.
C'est quoi ta guilde?
Hein? Moi, j'aime beaucoup Izette, mais j'aimerais dire que je suis Boros.
Ah, OK, je comprends. Moi, j'aime bien ça. C'est très bien placé.
Qu'est-ce que t'allais dire?
J'allais dire, Boros, ça me fait passer un peu à McDonald's, parce que souvent, sur l'art de Boros, il se fait comme des minotaures, puis des minotaures, ça a l'air des bœufs, puis ils sont pas mal genre ketchup, mayo, puis des teintes d'oranger. Fait que j'ai toujours l'impression de checker, genre, check le beau hamburger avec un épée.
Là, tu viens de me ruiner ma guilde pour moi.
Mais moi, c'est purement point de vue visuel. Genre, c'est pas...
Je déconne, ça en tient pas juste à ça. Mais Boros 100% bœuf, c'est peut-être pas pire, ce jeu.
Ouais, surtout, avant, il y avait un Boros. Je pense que c'était un Minotaur qui coûtait genre du mana hybride, là, genre 3 blancs ou 3 rouges.
Puis le dommage qui se fait faire.
Lui, là. Ouais, c'est ça. Lui, il avait vraiment l'air de. Check, un flot de ketchup.
Boros mayo,
genre,
Corner.
Il est cuit à point. Hein, tu sais, le feu en arrière, tout, là. Genre.
C'est ça que je voyais.
Olivier a dit qu'il payait le hot dog tantôt.
Ouais, c'est ça.
Sinon, merci beaucoup, Camille, d'être là avec nous pour cette émission-là. On va aller vers la carte de la semaine. Puis après ça, d'ailleurs, c'est toi qui l'as choisi. Et c'est une présentation de L'Abyss, un magasin de cartes super sympathique situé au 7355 Saint-Michel, au métro Saint-Michel. On écoute le beat à bone. Camille, cette semaine, t'es notre invité de marque. Tu as choisi la carte de la semaine.
Oui, cette semaine, j'ai choisi Curious Homunculus parce que j'aime beaucoup cette carte-là. J'aime le concept. Ça vient de Eldritch Moose, Non-Common. Je l'ai choisi à cause du art de la carte. C'est un homunculus qui fait des recherches très curieuses, hein, Curious Homunculus.
Hey, mais, hein? Et d'ailleurs, on peut mentionner que c'est, tu le tapes, ça te donne un colorless pour faire un instant ou sorcery seulement. Et sinon, au début de ton upkeep, s'il y a trois ou plus instant ou sorcery dans ton graveyard, c'est là que l'homuncule a fait assez de recherches pour devenir...
Le Voracious Reader.
C'est une carte flip, donc tu tournes la carte puis ça devient un Voracious Reader qui... En fait, c'est un Eldrazi Homunculus qui est un 3-4. Les instants et les sorceries te coûtent un de moins, puis il y a prowess, c'est-à-dire chaque fois que tu cartes une non-creature spell, il gagne +1/+1.
Hey, c'est super versatile, ça. C'est quand même
possible. Moi, je joue cette carte-là dans un deck de que j'amène des fois dans des FNM, dans les magasins. Hein. En tournoi, c'est plus assez fort, mais même en moderne, là, je me fais des decks d'Izette. Avec un ou deux Curious Homunculus parce que ton graveyard il devient assez gros vite là, de Lightning Ball puis de Gutshot, des spells comme ça, fait qu'il peut tourner assez rapidement, puis après ça c'est juste trop le fun de le flipper. Il donne un rabais de 1 à toutes tes spells puis il devient vraiment un gros monstre.
Effectivement. Toi Camille, c'est quoi? Je pense qu'il a pas mal fait le tour.
Ben, il a fait le tour du côté jeu, mais moi c'est même pas pour la jouer. Je trouve juste que la recherche de l'homunculus là, qui regarde des tombes interdites qui tombent sur des choses d'Emrakul, puis qui devient complètement Lovecraftien avec une rage incroyable, déchire les pages, il mange les livres. C'est, je trouve juste que la carte, elle me fait rire à chaque fois. Pis...
Peut-être dire le nom de l'artiste.
Ouais, l'artiste, c'est. Voyons, il est où?
Philippe Burburant.
Philippe Burburant, je ne connais pas celui-là.
Un nom d'Eldrazi.
C'est un nom d'Eldrazi.
Effectivement. Ben, merci beaucoup, Camille. On va aller vers le beat à bone, puis on s'en va à la deuxième partie d'émission. Je pense qu'on veut des anecdotes. On veut connaître l'abysse. Hein? C'est un petit peu ça. Jason, tu avais des questions à poser.
Ouais, moi, je veux que tu nous fais un épisode. Là. C'est comme ça, on écoutait Clerk 3 d'Abyss.
Oh.
Ouais,
raconte-nous comment c'est en arrière du comptoir. Là.
Ou peut-être une histoire d'un client qui était un petit peu farfelu, là, sans le nommer, évidemment.
Ah, je veux pas parler en mal. Mes clients sont tous magnifiques.
C'est sûr. Mais t'avais-tu déjà fait ça avant d'être à l'Abyss?
À l'Abyss, la première fois que je travaillais dans un magasin directement. Je fais plusieurs collaborations dans des conventions, dans ce genre de choses-là. J'ai travaillé un peu brièvement avec l'Entre du Geek, qui est un site web que j'imagine que beaucoup de monde connaît ici. J'ai souvent été dans le milieu, mais c'est la première fois que je travaillais directement pour un magasin puis que je m'investis dans le côté comme plus business, finalement. À but lucratif, finalement, comme professionnellement, comme je dis, les conventions, ce genre de choses-là, c'était plus pour le fun, pour le hobby, pour que les choses progressent, tu sais, pour promouvoir, finalement. Puis là, j'ai l'occasion de faire les deux, tu sais, de faire à temps plein de la promotion pour des jeux que j'aime, fait que c'est vraiment, vraiment le fun.
Quand tu parles de jeux que t'aimes, est-ce que c'est quelque chose qu'on a oublié de parler tantôt, mais le jeu de société au Québec, comment ça se porte? Est-ce que tu connais des compagnies indie qui font des affaires de leur bord?
Je t'ai pas préparé de liste de compagnies indie. Écoute, c'est quelque chose. Repose-moi cette question-là un autre moment donné.
Ben, parfait. Je suis très curieux. Si toi, en plus, tu dois avoir des distributeurs un petit peu particuliers.
Oui, absolument. On en a.
Mais j'en connais deux vite de même. Il y a ceux qui font Emerlaus. C'est québécois, ça.
Oui, effectivement.
Puis il y a Gladius aussi qui font des jeux de société. Mais ça, c'est plus bonbon, là.
Ouais, on a Gladius, en fait. Tiens, vu que tu m'en parles, c'est bon. Gladius, on tient beaucoup de choses de Gladius. Oui, il y a des plus petits jeux de party, mais il y a aussi des meurtres et mystères, des enquêtes, des choses que ça. Des meurtres et mystères un peu classiques. Gladius sont plus dans... le jeu de société classique qu'on va jouer à Noël en famille.
Gangster.
Ouais, Gangster, le pro, ce genre de choses-là. Donc, eux sont bien mal fun aussi. Mais c'est je pense pas qu'il qualifierait d'indie. Là.
Fait que toi, là, sinon, l'antre du geek, t'as-tu comme un domaine préféré? T'es-tu plus joueur de Magic, Warhammer, comme tu parlais tantôt?
J'aime pas cette question-là.
Non, t'es aimes tout égal, toi.
Comment on peut dire qu'on est d'un côté ou d'un autre? T'sais,
moi, c'est assez facile.
moi, c'est Magic, X-Wing, puis peindre des figurines ou des board games qui sont intéressants.
Ben, tu vois, tu viens de toutes les heures.
Non, mais ce que je joue le plus, c'est, ouais, c'est ça, Magic, X-Wing, puis peindre, mais le reste, c'est le fun, là, mais on laisse
ça
aux autres.
Et voilà, fait que toi, t'es open source.
Ça évolue pas mal, ça dépend des périodes, ça dépend des années. Il y a des années que je vais m'investir beaucoup dans Warhammer, ça prend beaucoup de temps à peindre, etc. Il y a des moments où je vais jouer plus à Magic, il y a des moments où est-ce que je vais être plus jeu de rôle, tu sais. Des fois, quand tu pognes un très bon jeu de société, là, tu passes une couple de semaines là-dessus. Je me promène, écoute, j'ai pas
de... C'est quoi le dernier très bon jeu de société que t'as pogné?
Le dernier très bon jeu de société, ben là, j'ai récemment eu des invitations pour le jeu de Game of Thrones, parce qu'évidemment, hein, on en parle, là, c'est à la mode ces temps-ci, mais ils ont fait un excellent jeu de stratégie, là, Game of Thrones.
Il faut faire une belle saison.
Mais c'était pas un jeu, ça.
Parlons du jeu. Non, c'est un roman à la base. Mais parlons du jeu.
Ouais, non, c'est un jeu de stratégie un peu à la... Je veux pas dire à la risque, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, ouais. Parce qu'il y a une politique...
À la Axis Analyse, mettons.
Ça s'approcherait plus, mais même là, il y a beaucoup plus d'emphase sur la politique, puis sur les alliances, l'initiative. Tu connais le jeu?
Je sais pas si on parle du jeu avec, mettons, pour attaquer, tu places un token à l'envers de raid, ouais. Ou de... OK, ouais, j'ai joué une couple de fois. Effectivement, c'est très cool. Mais ouais, non, ça, c'est vrai, c'est un bon produit de Game of Thrones, même si je suis pas un fan.
Sinon, vous avez beaucoup de tournois à l'Abyss.
Oui, on a...
De toutes sortes, là. Des fois, vous donnez un prix de quelqu'un qui a gagné, là.
Mm-hmm.
C'est quoi la manifestation de jouet la plus particulière que tu te rappelles avoir?
OK. Là, des anecdotes. On voulait des clients farfelus. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Pas au pre-release de War of Spark, mais au pre-release de Ravnica Legends. OK? Je pense, Tommy, t'étais là, mais t'es parti avant que cette histoire-là spécifique.
C'est arrivé
en fin de soirée.
Okay.
C'est qu'en fin de soirée, à la fin du dernier Sealed, je remets mes prix, puis j'appelle les gens, tu sais. Puis à l'Abyss, on essaie de donner plus de prix à un petit peu à tout le monde, au
c'est
moins.
C'est très t'sais. Apprécié. Ouais. Merci. Ça fait partie de
François
l'équation.
Lompré, c'est pour ça qu'il va à l'Abyss.
Okay? Ouais, parce que sinon, je gagnerais rien.
Non, mais moi, j'ai perdu toute la journée l'autre fois, puis j'ai pogné Liliana Dreadhorde General dans mon booster que tu m'as calé. J'étais super content. J'étais là, wow!
On laisse finir son histoire.
All right. Fait que je cale mes prix. Puis là, je cale le premier, tu sais, où les personnes qui avaient juste des victoires, puis t'as un gars qui dit « Yeah, yeah, yes sir », il applaudit, puis je le vois que tout au long de la soirée, il était de moins en marchait de moins en moins drette, fait que je pense qu'il...
Hein? Il avait amené de quoi dans son sideboard?
Ouais, yeah, oui. Fait que c'est ça. Fait que je colle premier, ben enthousiaste. Je colle les deuxièmes, ben enthousiaste. Les troisièmes, ben enthousiaste. Puis à chaque nom que j'ai nommé, écoute, il était « Oh, let's go, viens-t'en! » Il était à côté sur le comptoir tellement il se tenait plus droit.
Je pense que c'est Sarfati.
Continue l'histoire. Le punch en vient.
Il était enthousiaste
à chaque personne.
Puis il n'y a pas tellement de punch plus que jusqu'à la dernière personne que j'ai appelée pour donner mon dernier booster, alors que tout le monde était quasiment parti de la place, il restait plus, la salle était vide. Lui était « Ah, let's go, mon chum! Donne un coup, donne une main, un câlin! » Puis tout le monde, il payait leur booster, il savait pas qu'elle
fasse. Ça n'en prend plus, c'est le même.
Non, mais ça mettait de l'ambiance, je veux dire, c'est sûr.
Ben oui, c'est sûr, on aime ça. Ah. Ben, sinon, un autre client weird que t'as eu, il y a un gars qui collectionne toutes les Wall of Food.
Ah, lui, là.
moi, c'est la raison numéro un pourquoi je joue à Magic, c'est le seul hobby que peu importe. Je voyage beaucoup et je suis rarement dans la même ville. Là. Mais c'est le seul hobby que 7 jours sur 7 dans ta semaine, il y a un magasin quelque part qui va faire un tournoi de Magic, peu importe le format. Puis moi, je trouve ça génial parce que dans le fond, il n'y a pas une soirée. Si tu n'as rien à faire d'une soirée, ben, tu vas jouer à Magic, tu trouves un magasin. Puis je me demandais, moi j'ai remarqué qu'il y a vraiment une explosion là, de magasins, ça pousse partout. Est-ce que tu sens là, vraiment comme un, que le jeu de table, malgré cette ère de jeux vidéo puis de les gens sur leur téléphone, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un trend, là, un engouement pour se mettre toute une gang autour de la table puis jouer à des jeux, que ce soit Magic ou d'autres. Ben, t'as dû remarquer, là, toi, de ta position en arrière du comptoir, là.
Oui, ça c'est vrai. Écoute, pour le jeu traditionnel, là, il y a eu plusieurs périodes. Au début des années 2000, il y a eu une renaissance là, avec Catan, etc. Ça a ramené les jeux plus spécifiques, là, plus, t'sais, qui sont au-delà de Monopoly, etc. Là, les jeux plus...
ça a tassé les jeux plates, là, ouais.
Ouais, ben là,
on
ne jugeons pas. Mais s'il y a des gens qui aiment ça, Monopoly, écoute...
On les aime plus que les joueurs d'échecs.
Ah oui, c'est cette guerre-là entre Terrain Basique et les joueurs d'échecs.
Il y a une guerre. On fera un épisode un jour, tu vas voir. Okay, mais continue bon. Ton histoire.
Donc, ouais, c'est ça. Au début des années 2000, avec Catan, fin 90, début 2000, on a eu une renaissance des board games. Il y a eu beaucoup de jeux de plateau comme jeux de société vraiment de qualité qui sont sortis. Donc ça a redonné un gros boom aux jeux traditionnels. Mais ça n'a pas trop affecté le hobby comme Magic, puis Warhammer, etc., qui avait des problèmes à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, ça marche beaucoup mieux qu'avant, puis aussi moins de stigma sur le fait de jouer avec des petits bonhommes à l'âge adulte.
Oui, c'est moins loser, ça.
Ce qui, malheureusement, a été le cas dans des générations passées.
Ben oui, hein. Ben oui.
Ça, c'est regrettable, mais on sort de ça, fait que soyons optimistes.
Ouais. Ben oui. Mais je suis d'accord que la vague de jeux de qualité a comme sûrement aidé à... Ben, c'était comme l'offre qui n'était pas là, la demande était dormante.
C'est ça, exactement. Non, c'est une vraiment bonne façon de le décrire, parce que c'est ça. Puis dans la dernière année, pour revenir sur le sujet, Magic et Games Workshop et un peu tous les hobbies là, finalement, ouais. Là, ils se sont mis à faire des méchants bons jeux. Tu sais, on regarde là, les derniers sets de Magic, on s'entend-tu que ça remonte là?
Oh, c'est pas mal Dominaria, plus
fun.
Là, ça...
C'est depuis Dominaria, ça monte, c'est le fun. Ils font vraiment des bonnes cartes, ils font des affaires le fun. Dans d'autres jeux aussi, on a cette tendance-là qui prennent plus le temps de prendre soin de leur jeu. Alors qu'avant, on dirait qu'ils prenaient un peu plus soin de la business, mettons.
Oui.
Puis vouloir trop être économe, checker.
C'était des produits rushés, là.
C'est ça. Si t'avais des produits rushés, productivité, etc. Tandis que là, on dirait que le soin sur le jeu revient un peu plus. Puis ben là, c'est le succès vient avec ça. Là, on a une resurgence un peu partout. Puis la réponse, c'est que les jeux sont de meilleure qualité. Ils font des meilleures cartes, ils font des meilleurs sets, ils font des meilleures règles du côté du miniature, etc. Donc... Écoute, ça progresse, le monde revient. Écoute, combien de monde qui reviennent jouer à Magic là, dans la dernière année? Je suis sûr que vous n'avez vu passer pas mal.
Moi, je suis un peu revenu au jeu de miniature, là, à part la peinture. J'ai lu sur Shadespire pendant longtemps. Puis là, quand je suis venu pour l'acheter, c'était déjà rendu à Night Vault. Fait que j'ai tout acheté en précommande. Puis là, j'ai juste le goût de jouer. Là, j'ai... Déjà trois teams, puis le jeu il est vraiment nice.
Puis ça aussi, c'est que souvent, t'as besoin d'avoir du monde qui joue avec toi pour jouer. Fait que là, s'il y a plus de monde qui joue, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui joue avec toi. Fait que ça développe comme une affaire exponentielle à un moment donné. Là.
Et c'est pour ça qu'on existe, ami.
Et voilà, vive la bise.
Justement, tu dis que vous avez pris comme position pour le board game, puis je me demande avec la montée de Magic Arena, est-ce que ça fait une baisse d'achalandage ou ça change absolument rien? Du côté de vos ventes?
Absolument impossible à dire pour l'instant. C'est vraiment trop tôt pour comme le savoir. Il y a des gens qui... Tu sais, c'est arrivé, des gens qui m'ont dit « Ouais, ben là, à cette heure, moi, je suis Magic Arena, fait que je me débarrasse de ma collection, putain. » C'est rare.
On est acheteur.
Ouais, non, mais c'est ça. En fait, nous autres, on revend ça à des gens qui veulent jouer avec du carton. On aime ça. Mais en même temps, il y a toujours une crainte, évidemment, que Magic Arena prenne un peu le dessus. Mais moi, c'est vraiment pas mon feeling. Moi, je pense que c'est pas mal bon pour le hobby. C'est quelque chose qui amène des nouveaux gens. C'est plus accessible. Ça vient chercher des gens qui ont pas besoin d'acheter trop de cartes, puis qui peuvent essayer ça sur le coin d'une table chez eux, pas nécessairement chercher des adversaires. Tu sais, il y a des gens qui sont gênés dans ce hobby-là, puis qu'ils ont de la misère, ils stressent quand ils jouent contre du monde. Mais quand tu joues sous l'ordi, c'est moins
pire. C'est très pédagogique pour les règles aussi.
Oui, oui.
Tu peux apprendre l'ordre du stack et toutes ces affaires-là.
Absolument.
T'as pas à créer de malheur. Moi, pour ma part, je joue pratiquement pas à Magic Arena. Des fois, je fais des drafts, mais j'aime jouer avec du monde autour de la table. Il faut que je puisse parler de ta mère. Genre.
Ouais, mais c'est bon, c'est bon aussi pour les jeunes, parce que moi, mon plus vieux veut jouer à Magic. Puis, tu sais, il sait que ça existe sur l'ordinateur. Puis moi, ça me tente pas qu'il passe trop de temps sur mon ordi à jouer à Arena. Mais j'ai dit, regarde, j'ai des decks. Au pire, on peut aller au magasin. Puis l'autre fois, au Pre-Release, j'avais un adversaire. Moi, j'assumais qu'il devait avoir 15-16 ans. Puis là, à un moment donné, tu sais, je sac un peu. Là, quelqu'un qui se retourne. Puis là, je dis, ah, excusez. Je dis, anyway, s'il est correct, tu sais. Je dis, t'as quel âge, toi? Mais il dit, genre, j'ai 12 ans. Je fais, oh boy. Tu sais, mais il dit, c'est correct, tu peux sacrer. All right.
ça rapproche ouais. Génération, mais.
J'ai demandé, ça fait combien de temps que tu joues? Tu c'est ton frère qui t'a le montré? Il dit, non, c'est moi. J'ai commencé à 5 ans. Avec des cartes qui sans savoir c'est quoi. Puis là, il y a 12 ans, ça veut dire que ça fait 7 ans qu'il joue. T'sais. C'est bon pour les enfants.
T'apprends l'anglais.
Puis aussi, c'est l'interaction humaine, moi, je pense, qui est importante là-dedans.
C'est sûr, il faut qu'on puisse
parler. Les histoires vont rester.
Il y a de quoi que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs de très bas âge. Ça, il n'y avait pas ça avant. Là.
Ouais.
C'était plus dans 10, 15 ans. Et là, il y en a de 6 ans.
C'est, ouais, ouais.
C'est débile. Ben, c'est sûr qu'à
Arena, Camille pourrait confirmer.
Ça doit être rare, les parents ou les pères qui disent « J'aime mieux t'acheter des cartes que te laisser jouer à Arena gratuit. » Mettons, c'est une trail particulière.
Ben, quand t'es parent, tu comprends que c'est pas, tu veux pas qu'ils restent plantés devant l'ordi.
Ben, c'est social. Hein?
Accaparer ton ordi à un moment donné parce que ça y tente de jouer. Le fait d'avoir des cartes dans les mains puis d'être obligé d'aller voir un ami puis de s'ostiner des règles qu'ils comprennent pas, tu sais, je veux dire, ça développe le côté social.
Ouais. C'est bien vu, bien vu.
Je voulais enchaîner une question sur un autre sujet. Je suis un petit peu curieux là-dessus. C'est quoi, mettons, là, moi, je suis le joueur de Magic Lambda, là, j'arrive en avant de ton comptoir, là, je veux te vendre ces cartes-là, tu sais, peu importe.
Mm-hmm.
Puis, toi là, ton schéma de décision dans ta tête, parce que tu prends un risque, dans le fond, tu sais, que tu achètes ou tu échanges des cartes à quelqu'un, ton but, c'est pas de les garder, là. Tu veux t'en débarrasser le plus vite possible. En théorie, là, toutes les cartes, c'est pas mal ça. Là. C'est...
Absolument, on est une business. C'est sûr qu'il faut qu'on paye notre loyer.
Mais,
faut qu'on...
mais ça, je sais aussi que ça arrive que des fois, tu dois échanger une carte, puis là, soudainement, les gens se mettent plus à la jouer, fait que t'es pogné avec.
Ah, mais c'est certain que...
C'est quoi la dynamique de ça? Là?
Dans la business, on peut jamais s'attendre à ce qu'on se vide notre inventaire complètement.
Hein. Ça, c'est sûr.
Toute façon, tout commerce au détail, ils ont des produits sur leur tablette qui vendront pas jamais. Je pense que d'avoir cette attente-là, c'est... Mais effectivement, quand quelqu'un me vend un lot de cartes, souvent, il m'intéresse pas toutes les cartes, mais quelqu'un veut vendre des cartes, je vais prendre ses cartes.
T'sais. Tu peux pas dire non?
Ben, je peux. Je peux dire non, parce que des fois, j'ai beaucoup trop d'une carte, puis je sais que ça me donne rien de la stacker, puis ça, ben, si je monte trop mon inventaire, ben, ouais. Vraiment, ça dort.
Sauf les Wall of Wood.
Sauf les Wall of Wood, ça, j'y prends toujours à cette heure.
C'est bon.
J'ai quelqu'un qui...
Écrivez ça, prenez ça en note, des Wall of Wood.
C'est tout à Tony Gallette.
J'y prenne.
Mais continue.
Oui, non. Donc, comme je dis, c'est sûr que, comme tout échange, tout business d'échange, c'est pas tout qui va me payer immédiatement. Des fois, des investissements plus longtemps. Des fois, c'est des affaires que je vais prendre pour donner un service à mon client. Tu sais, si tu m'arrives avec tes rares de Terros, là, mettons, là, qui valent 25 cents, 50 cents chaque, là, c'est sûr que moi, si je vais t'y reprendre à 5 cents chaque, mais en crédit, là, mais c'est pour te rendre un service que je fais ça. C'est parce que t'es bon client, je veux que tu sois content, je veux que tu sois ici, je veux que ça soit une place où est-ce que tu fais ta business. Fait que le jour où tu veux t'acheter une Dual Land, ben, je vais être là pour ta vente.
Ah, je veux l'acheter. Je veux l'acheter justement, un Tundra, il m'en manque un pour mon Stormblade.
Viens voir, on a une belle sélection.
Hey, moi, je suis ma dernière question, je suis un gros joueur de Magic Old School, là, qui est un format qu'on a juste droit à des cartes de 93-94. T'as-tu remarqué une hausse de ces cartes-là?
Une hausse
de vente?
De vente ou d'achat?
Une hausse de la demande.
La demande? J'ai pas remarqué récemment.
Toi qui ton Magic tantrique.
Non, mais je comprends, je sais.
Parce que les Dark Ritual 3e édition, là, c'est rendu comme une pièce coque quand tu veux les acheter.
Je t'avouerais que j'ai plus vérifié les nouveaux sets.
Tu checkeras le prix dernièrement, là, puis des fois, c'est, tu sais, Circle of Protection Red, 75 cents. Oui, tu fais comme...
Et... Ça, j'ai remarqué que je m'en suis demandé récemment. C'est dur de garder une image mentale de tout ce qui se passe. On essaye, mais le old school, c'est pas encore assez commun pour vraiment que ça me vienne en tête qu'est-ce qui se passe dans l'old school.
En tout cas, je travaille fort pour que ça augmente. Là.
Ouais, c'est correct.
Votre carte la plus chère, ça serait laquelle?
Notre carte qu'on a en inventaire la plus chère, je pense que c'est des Aether Void, mais je suis pas certain. Faudrait que je vérifie ça. Là. J'avais des...
Aether Void, ouais. C'est quoi ça?
Nether Void, ouais, c'est ça. Nether Void.
C'est un Ancient World de légende qui coûte 3 colorless, 1 noir. C'est un Ancient World, c'est-à-dire que ça affecte tout le monde autour de la table. toutes les spells sont counter à moins que tu payes un 3 colorless additionnel. Oh! C'est la carte maître là, pour quand tu joues contrôle puis que ta mana curve est slow là, Nether Void c'est très fort parce que ça bloque toutes les decks d'aggro là, c'est comme
ça. Les Enchant World c'est quelque chose qui existe plus vraiment, mais dans le temps quand t'en mettais un deuxième, le premier partait. Puis il pouvait avoir juste un Enchant World.
C'est l'ancêtre de Plane Chase là. Ça signifie que les duelistes viennent de changer de plan, puis c'est l'excellent artwork sur Nether Void là, par Harold McNeil là. Moi c'est un de mes artistes préférés là. C'est juste fou l'artwork là.
Il va avoir des combien, ouais.
Par cœur, je pense qu'il va chercher. C'est dans les 500-600.
Plus que ça?
Ça peut-être. Tout ce que je dis là, c'est par mémoire. Fait qu'il faut qu'on confirme ça au magasin. Il n'y a rien qui...
Oui, la politique du prix, là, c'est que ça prenait pas ça en compte. Sur quand vous entendez un prix à terrain basique, n'arrivez pas à l'abysse et dire ben là, le prix affiché, c'était un tel. Là, t'es censé me le donner gratuit.
Je pense pas qu'il part avec ce mandat-là.
C'est sûr que c'est pas comme ça.
Camille, parle-moi de ton dernier deck que t'as monté.
Mon dernier deck. Écoute, je vais te parler de mon deck préféré que j'ai en ce moment, qui n'est pas le dernier que j'ai fait.
Ok, je comprends.
Qui est mon préféré. J'ai fait un Izzet. Il faudrait que je l'update pour War of the Spark. Mais le but, c'était de sortir Niv-Mizzet, mais avec un Electro Dominance. Ça veut dire que je fais tout ce qu'il faut pour contrôler la game jusqu'à temps que j'aie 8 mana. Puis là, il y a un tour que je garde mes 8 mana, je laisse l'autre jouer. Si j'ai besoin de counter, j'ai le counter. Mais mettons, j'ai pas besoin puis que je réussis à passer ça. À la fin de son tour, je fait un Electro Dominance de 6. Fait que je peux remover quelque chose ou burn it 6. Et je peux mettre Niv-Mizzet sur la table en instant. Là, je untap, c'est à mon tour avec full mana puis Niv-Mizzet. Puis par ce moment-là, j'ai beaucoup de jumpstart dans mon graveyard, là, des Radical ID puis ce genre de choses-là. Fait que je peux me faire piger probablement de mon à cause du jumpstart. Je peux me faire piger. Je peux...
Tu joues combien
d'électro dominance? C'est quand même assez fort, ça. Électro dominance, d'habitude, on essaie de parler de chacune des cartes. Là, je comprends que c'est... Yep. Ben non, je t'en prie. C'est comme plusieurs cantrips. Les jumpstarts, c'est que tu peux jeter la carte de ta main et la refaire. Donc, ça fait que tu peux jouer les mêmes.
Non, jumpstart, il faut que tu payes le prix.
C'est ça.
De la carte aussi. La carte est dans ton graveyard, puis pour la recaster à partir de ton graveyard, tu jettes une carte et tu payes son mana.
Et tu repayes le prix. Et Electro Dominance, c'est 2 rouges X et un instant, ça fait X de dommages, et après ça, tu peux jouer une carte de mana cost X ou moins de ta main et la mettre en jeu. Et le Niv-Mizzet que tu mets en jeu, il coûte 6 piles. T'es sadique, dude.
Mais c'est pas un deck qui est absolument compétitif parce que réussir à faire ça.
Avoir 8,
C'est tellement plaisant. Là,
c'est ça la force de ça.
Ça le fait en masse.
Ouais.
Niv-Mizzet, en vintage. En vintage, je le jouais, ce Niv-Mizzet. Il est excellent.
Puis sinon, je veux dire, à part Izzet, c'est quoi d'autre qui te branche?
J'ai aussi un deck de Golgari Undergrowth que j'aime bien gros.
Pas avec celui qui coûte 2 noirs, 2 verts, que tu sacrifies un monstre puis que ça fait autant de dommages que son power à tout le monde?
Non, je pense pas que je l'ai, ça.
Ok, merci. Ouais. Continue.
Non, le but de ce deck-là, dans le fond, c'est de... J'ai des Chupacabra qui, évidemment, en entrant en jeu, ils détruisent une créature d'ennemi pour 2 noirs, 2 colorless. Puis tout ce genre de choses-là, je me self-mill, donc je mets beaucoup de choses dans mon graveyard à partir de cartes que je joue et qui meurent. Puis après ça, je joue des cartes qui deviennent de plus en plus fortes plus j'ai de créatures dans mon graveyard. Donc le plus...
Tu joues-tu Izoni?
Oui, j'ai une variété de... De 1 à 3 Izoni, dépendant de comment je feel dans ce deck-là.
2 colorless, 2 noirs, 2 verts. C'est une 2-3 elf chaman. Fait que Tommy l'aime beaucoup.
C'est
une elf chaman. Quand elle rentre en jeu, elle crée un nombre d'insectes 1-1 égal au nombre de créatures que tu as dans ton graveyard. Puis tu peux sacrifier une créature pour gagner une vie puis j'ai une carte.
C'est sûr que ça pue chez eux. Tu sais que c'est une elf chaman avec plein de mouches. Touche-moi pas. Voyons donc. Hey, ben merci beaucoup, Camille. Je pense que j'espère que tu vas revenir à d'autres émissions. C'est vraiment gentil de la part de l'Abyss. On va bien gauler à partir de là. On a très hâte au pré-release du 8 juin. On va aller faire ça là, c'est sûr. Ça va être quoi? Qu'est-ce que t'attends de ce nouveau set-là?
Ben, moi, j'ai pas de deck moderne en ce moment. Fait que je pense que je vais en profiter dans ce set-là pour peut-être m'y mettre. ce que j'attends, mais j'ai vu des belles grosses cartes là. Écoute, moi ce que j'aime beaucoup le lore. Je vais d'ailleurs venir à dire que j'aime beaucoup le côté lore de Terrain Basique. Quand ça sort, c'est mon segment préféré. Puis justement de voir Serra comme créature, ben, comme Planeswalker en fait, excusez.
Ouais, ouais.
Qui vient comme faire une apparition, de voir Urza. Tu sais, tous ces noms légendaires là, je trouve ça bien le fun là, qu'il y ait des cartes.
C'est vraiment intense parce que chaque morceau de la carte fait référence
à des cartes
à d'autres cartes de vieux sets. Modern Horizon là, c'est vraiment le fan service de Magic là, c'est il cache
C'est pas Commander Master ça?
Ouais, c'est ça ressemble c'est un peu comme les Commander là, c'est qu'ils font un hommage. Je vais juste prendre
Commander Master aussi.
Serra de Benevolent là, juste tu sais comme son +2, c'est Creature you control with flying +1/+1 until end of turn. Ça vient de Homeland, c'était la carte Serra
Sanctum.
Son -3, tu crées un 4/4 White Angel avec flying vigilance. Ça fait référence au Serra Angel dans Alpha. Puis son -6, you get an emblem. If you control a creature, damage it will reduce your life total to less than 1, reduce it to 1 instead. Ça vient d'Urza Saga. C'est j'ai un blanc de mémoire. Non. Mais c'est une carte qui fait sur la carte, tu voyais une grosse statue de Serra là. Puis ça faisait exactement cet effet-là. C'est chaque morceau d'une carte fait référence à des vieilles cartes. Ça va être un set pas mal de fun.
On construit le personnage avec
ça. C'est une courte pointe, cette carte-là, finalement.
Wow! Hey, Tommy,
comme
la bonne
Urza description. Aussi, le 2 bleu, 2 colorless, qui a 3 pouvoirs qui a rapport avec des
vieilles cartes
Cette set-là, il va être cassé, man.
Ah ouais, hein? Mais toi, t'es tout le temps en train de chioler avec un set ça.
Ouais, ça fait partie de ma réputation.
OK.
J'ai un chioleux. Mais je vous aime.
On t'aime, nous autres aussi. Est-ce que il y a quelqu'un qui a une autre question pour notre invité Camille? Je pense qu'on va booker ça pour cette semaine.
Ouais. Ben, en fait, j'avais une question. Je savais pas qu'il y avait un pre-release de ça, mais je suis pas trop non plus. C'est un pre-release de Modern Horizons.
Oui, exactement. On va faire des seals de Modern Horizons.
C'est quoi, les arts puis le coût d'entrée?
Tu peux y aller à peu près. On va pas
25$.
Non, celle-là, je vais...
plus cher, c'est sûr.
Le prix est plus cher, c'est 8$
par paquet. C'est sûr que ça va plus. Ouais. À mon souvenir, non, mais je veux pas dire de prix, juste dire.
Okay.
Vous pouvez consulter notre site web, vous pouvez même vous inscrire en ce moment.
Okay.
Donc, j'encourage de faire ça, mais j'ai pas le prix exact présentement, donc je vais pas.
C'est un draft ou un seal?
Ça va être un seal.
Un seal.
C'est un vrai pre-release, même si on n'a pas de pre-release.
Vous autres, faites ça toute la fin de semaine, ça commence vendredi minuit, je pense. C'est ça, puis vous faites ça jusqu'au dimanche.
Oui, on va le faire comme un pre-release normal, c'est-à-dire on a 6 seals dans la fin de semaine, un à minuit, un à 6h le matin, un à 6h à midi, un à 6h le soir, et le dimanche, on en a un à midi à 6h le soir. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de monde qu'un vrai pre-release normal.
On pourrait être surpris.
Mais oui, effectivement, je ne m'attends pas à ça, mais je m'attends à un bon nombre de personnes quand même.
Ben, en tout cas, on espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute Terrain Basique qui vont venir, parce que nous, c' 'est sûr qu'on y va.
Oh, oui, on va être là.
Pas à 6h. Pas à 6h. Y a-tu du monde à 6h le matin ou le monde dorme?
Ce qui arrive.
C'est genre, hey, faites vos decks. Il est quelle heure?
Ce qui arrive, c'est que t'en as qui veulent le faire le plus vite possible, fait qu'ils se pointent à minuit le vendredi. Puis là, ben, une fois qu'ils ont fini, s'ils se sentent en forme, ils disent « Ah ouais, il y a un autre tout de suite à 6h le matin. » Fait qu'ils restent, on reste ouvert toute la nuit pour les pre-release.
C'est-tu déjà arrivé un qui est resté là toute la fin de semaine?
Non, ben, on en a, ça arrive, là, t'en as un ou deux des fois qui vont faire le 24h.
Okay. Je vais remettre des certificats.
Ouais, c'est pas une mauvaise idée.
Moi, j'ai vu un magasin, là, ça peut vous donner une idée, là. Il faisait, quand tu t'inscrivais pour ton pre-release, ils ont fait un forfait Saint-Hubert. Fait que dans le fond, comme ils achetaient leur pack, puis ben, ça coûtait plus cher, puis ils commandaient du Saint-Hubert. C'est devenu comme une sous-industrie, les pre-releases.
Ah,
c'est
sûr.
Ah, oui, absolument.
C'est comme un genre de mini Daytona dans le Game Store.
C'est une première d'un film. Il y a du monde autour. C'est sûr qu'il y a des journalistes qui vont pogner leurs cartes pour avoir de quoi écrire, puis c'est sûr et certain. Toi, tu fais ça, le 24 heures, vous passez à la POC entre les employés?
Ben, nous, c'est sûr qu'on s'arrange pour être toujours en forme et alerte.
minutes.
Et voilà.
Fait que parce que travailler 48 heures de suite, ça, ou 24 heures de suite, c'est difficile. Fait que on se fait des relais, on s'arrange, on se fait des horaires. On prend ça assez au sérieux parce que c'est quand même beaucoup de temps debout, c'est exigeant, tu sais. Mais écoute, on est.
Mais ça n'a jamais baissé la qualité de votre service à clientèle, en tout cas.
Merci beaucoup.
You've been low paid.
Ouais, puis ça. Moi, le bout que j'ai aimé le plus en pré-release de War of the Spark, c'est quand il criait.
Ouais.
La foule, comment ça allait se passer? Je disais, tabarnak, qu'il crie fort. Est-ce que tu
j'aimais ça aussi que tu dises que toi, ça te fait rire le monde qui se font mettre dehors parce qu'ils ouvrent le booster avant le temps dans le pré-release.
Ouais. Ouais.
Que c'est pas comme si on le savait pas. En tout cas, ça va être dit. Je pense qu'on est rendu au bout de l'émission.
Ben oui.
Ouais, ouais. Tout le monde s'est vidé le cœur, Tommy, là-bas.
Sauf Tommy, mais.
Non, mais je suis vraiment heureux d'avoir entendu ça aujourd'hui.
Et voilà.
Moi, ça me donne plus le goût de retourner à la bise, quoi, que je suis à côté de chez nous, faut que j'y vais de temps en temps, mais je le conseille à tout le monde. C'est grand, c'est spacieux, puis c'est chaleureux.
Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Tommy. Merci, Jason. Merci, François Lompré.
Ça fait plaisir.
Lompré! Et puis, ben, merci beaucoup, Camille.
Ça fait plaisir.
On espère te revoir dans le futur. Moi, c'est Tommy, et un petit peu comme à chaque fois, hein, je vous souhaite d'être le moins manascrou possible. Au son de Super Castlevania aujourd'hui.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.